Les casinos de Nouméa vous offrent l'heure.
Il est 17h46.
Avec les casinos de Nouméa, découvrez deux établissements situés à Lanzvata, trois univers de jeux, trois restaurants pour des heures de plaisir. Animation, spectacle, jeux, c'est tout un univers de loisirs qui vous attend.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h46, c'est l'heure de retrouver Léana Colombo et toute l'équipe d'RRB pour Info Soir.
L'accord de Bougival au cœur du magazine Transparent ce midi. Elisabeth Noir recevait Virginie Rufnac, extrait à retrouver en début de ce journal. L'individu responsable de la profanation de la sépulture de Jacques Lafleur a été identifié. Il s'agit d'un homme schizophrène âgé de 28 ans. L'affaire a été classée sans suite. Il a été déclaré irresponsable pénalement. 4 jours pour étudier l'impact des audits pour améliorer la responsabilité et la transparence dans les gestions publiques. C'était le but du congrès PASAI organisé par la Chambre territoriale des comptes. De nouvelles offres Internet feront leur apparition le 1er décembre prochain. L'objectif est de mieux coller à la réalité de consommation des Calédoniens. En sport, plusieurs rendez-vous locaux sont à noter pour ce week-end. On parlera cyclisme sur piste, football, mais aussi cricket et marathon. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au lendemain de la visite du ministre des Outre-mer, Virginie Rufnac estime que l'accord de Bougival est conforté parce qu'après la phase politique, les réunions du comité de rédaction ont permis d'avancer dans la phase de déclinaison juridique de l'accord. Le chef de groupe du Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Baudin.
Ces réunions du comité de rédaction ont permis, selon elle, d'affiner le projet de loi constitutionnelle, mais sans dénaturer l'accord de Bougival. Elle insiste sur la nécessité de préciser les choses pour éviter toute ambiguïté et pour rassurer les Calédoniens. Interrogée sur l'absence de la délégation FLNKS qui a rejeté l'accord que sa délégation a signé, Virginie Rufnac affirme que le mouvement est pris en otage par sa frange radicale issue de la CCAT et elle regrette qu'il ne propose aucune solution.
Je note qu'à l'issue de la rencontre avec le ministre, la position était celle du rejet total de Bougival et je note que le choix qui est fait par eux est à nouveau le choix qu'il y avait il y a quelques années de ça, des choix de bilatéral. Donc où est-ce que nous existons, nous, là-dedans? Donc le choix, c'est quoi? On revient à l'indépendance kanak socialiste, c'est ça? Et en plus par la violence, en un coup d'État qui a échoué le 13 mai 2024. Donc à un moment donné, il doit y avoir prise de responsabilité par ce plus ancien parti qui est celui de l'Union calédonienne et qui est un parti historique en Nouvelle-Calédonie qui a occupé une place fondamentale. Elle ne peut pas se laisser encore une fois aller à cette dérive de tambouille politicienne qui est sans aucun sens de la responsabilité pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Dans ce contexte, peut-on mettre en œuvre Bougival sans le FLNKS? La réponse de Virginie Rufnac.
Peut-on faire procrastiner et stagner la Nouvelle-Calédonie alors que toute sa population est en détresse aujourd'hui parce que le FNKS, qui est un plus le FNKS que nous avons connu, se radicalise et est pris en otage par les plus ultras qui ne veulent aucun compromis et qui considèrent que l'avenir de la Calédonie se construit uniquement dans l'indépendance. Ma réponse est non. Ça veut dire que nous devons avancer avec ceux qui veulent relever, reconstruire la Nouvelle-Calédonie et considèrent que seuls les compromis et les accords entre les deux grandes légitimités calédoniennes, les partisans de la France et les indépendantistes, peuvent être source d'avenir pérenne et puis surtout stable et dans la paix.
Manuel Valls, de son côté, s'est dit prêt à rencontrer le président du FLNKS, Christian Théin, malgré sa situation judiciaire. C'est de la responsabilité de l'État, affirme le chef de file du groupe de rassemblement.
Que l'État veuille s'adresser à Christian Théin, qui aujourd'hui est le président du FLNKS, c'est de l'ordre de sa responsabilité, de son choix. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir des Calédoniens et qu'on puisse poser des bases saines et dégagées pour cet avenir-là. Donc, je veux vous dire que pour moi, c'est ça la priorité. Voilà, je considère que M. Théin doit absolument répondre de ses actes parce que même si aujourd'hui on a l'impression qu'il n'a rien fait sensiblement dans les déclarations qu'il peut faire, il était le chef de la CCAT qui a conduit à toute dégradation et des violences extrêmement intenses que les Calédoniens ont subi. Donc aujourd'hui, il doit absolument répondre de ses actes et c'est à la justice d'aller faire aboutir le processus en cours.
Le calendrier de mise en œuvre de l'accord est très contraint et le ministre des Outre-mer reconnaît que ce calendrier calédonien est tributaire de la situation politique nationale. Mais Virginie Rufnac estime qu'une chute du gouvernement Bayrou n'aura pas de conséquences sur le report des élections provinciales.
J'espère bien qu'en cas de chute le 8 septembre, ce qui semble plus que très probable, il y ait très rapidement reconstitution d'un gouvernement national parce que nous en en avons véritablement besoin. Nous avons besoin d'avancer pour la Nouvelle-Calédonie. Donc je l'espère. En tous les cas, vous me parliez de la loi organique de report. Celle-ci ne dépend plus du gouvernement aujourd'hui, puisqu'elle est déjà dans les assemblées parlementaires. Elle sera la loi organique de report des élections provinciales pour pouvoir questionner les Calédoniens sur l'accord de Bougival avant et avoir les élections municipales dans la foulée. Elle est prévue le 16 septembre en commission du Sénat, et puis elle était prévue le 23 septembre, mais il me semble que la date a vocation peut-être à bouger, en séance publique du Sénat. Puis ensuite, ça sera l'Assemblée. Donc, on le voit, ça va suivre son circuit, ça sera indépendant.
Le calendrier de la loi constitutionnelle peut être davantage bousculé, et la question d'une majorité des 3/5 au Congrès de Versailles est posée. Virginie Rufnacht s'interroge sur l'attitude du Rassemblement national.
Le problème du Rassemblement national aujourd'hui, c'est qu'on se demande où il se situe dans l'échiquier politique, hein, parce que quand Marine Le Pen dit après les deux votes à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2024, et que quand le président de la République arrive en Calédonie le 23 mai, quand elle dit « je ne ferai pas voter mes parlementaires à Versailles le dégel du corps électoral », quand elle vient en Nouvelle-Calédonie en proposant comme seule solution un nouveau référendum aux Calédoniens, à un moment donné, il va falloir que ce parti national dise s'il est pieds et poings liés avec les LFI, ou s'il a une position qui est une position de défense des partisans de la France, d'une Calédonie française, d'une Calédonie démocratique, de droits fondamentaux pour les Français de Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il y a une clarification à faire, parce que je considère que la dernière visite de Marine Le Pen a été plus qu'ambiguë pour les Calédoniens, hein, dont certains croyaient en la personnalité de la chef de file du Rassemblement national.
Concernant enfin la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, le chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Calédonie espère que l'État va jouer tout son rôle.
D'abord, on attend évidemment la deuxième tranche du prêt garanti par l'État.
Est-ce que le ministre vous a donné des garanties?
En tous les cas, la Nouvelle-Calédonie a fait ce qu'elle devait
faire. Ça devait être fait après le vote du plan de réforme.
Exactement. Nous avons voté le plan de réforme. Donc aujourd'hui, les cartes sont dans les mains de l'État et le ministre Valls semble dire qu'effectivement, cette deuxième tranche devrait arriver. Mais nous l'attendons. Nous l'attendons. Pour l'instant, nous serons rassurés quand nous l'aurons. Et puis, au Congrès, il y a une mobilisation, je pense, de très nombreux élus pour voter un maximum de textes pour aller dans le sens de cette relance.
Une interview de Virginie Rufnacht qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera par ailleurs rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent approuver la décision unilatérale du président du gouvernement de retirer les deux drapeaux des permis de conduire calédoniens. Ils ne sont que 7% à dire qu'ils n'approuvent pas cette décision. Et notre question du jour, ressentez-vous une baisse des prix après le dispositif mis en place par le gouvernement pour réglementer les prix des produits de première nécessité? Si vous ressentez cette baisse des prix, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Stupeur à Wano la nuit dernière. En plein milieu de la nuit, les pompiers ont été appelés pour une intervention sur un incendie déclaré au camping snack du Caledonian Wake Park. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté l'embrasement du grand phare qui abrite la salle de restaurant. Maël Kerlager, chef de corps des sapeurs-pompiers du SIVM Sud, était sur place.
Il y avait déjà un embrasement généralisé du bâtiment de la salle du restaurant et qui commençait à toucher la cuisine du restaurant dans lequel le feu s'est propagé rapidement à l'issue. Donc nous avons eu pour action de protéger tout ce qu'on pouvait autour de ce bâtiment et environ 600 mètres carrés de brûlé. Toute la partie restauration du site a été embrasée, donc tout ce qui est cuisine, salle de restauration, tout ça ont été brûlés, ainsi qu'un conteneur avec d'autres matériels à l'intérieur. Le site en lui-même n'est pas entièrement embrasé, mais de ce que je comprends, c'était une des sources de revenus principales de l'exploitant. Il va falloir que l'exploitant procède au nettoyage du site et voit comment il peut relancer son exploitation ou pas, quoi.
Les propriétaires du camping snack habitent à 50 mètres du phare et ils ont été réveillés par le bruit. Un moment difficile pour Patrick Gardé.
Stupéfait, quoi. Complètement étonné. Abasourdi parce que on habite sur site à 50 mètres du phare. Dans la nuit, voilà, on s'est réveillé à 2h du matin parce qu'il y avait une espèce de bruit complètement anormal qui venait assez fort. Et quand j'ai ouvert la porte de la maison, j'ai vu le grand phare, un restaurant, qui était en flamme, quoi. Bah, ça a gagné derrière les réserves, le côté. Et puis après, les pompiers sont arrivés à partir de 3h. Bah, j'ai déplié mon tuyau, puis j'ai essayé de sauver les meubles, quoi. Mais finalement, une fois que ça avait attaqué la cuisine et puis la réserve, c'est parti gros brasier. Et du coup, là, il y a toute l'installation, grand faret, bar, cuisine, réserve. J'avais même un petit conteneur derrière où je comptais faire un laboratoire. Ça a brûlé aussi, le dernier, quoi. J'ai pas d'explication. On va fermer pour ce week-end. On a la chance d'avoir toute la partie hébergement, bungalow, camping intacte. Et on va essayer de réouvrir, je sais pas, le plus tôt possible, quoi.
Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de l'incendie et une enquête a bien sûr été ouverte. Toujours au chapitre des faits divers, le procureur de la République annonce ce soir par voie de communiqué que l'affaire de violation de la sépulture de Jacques Lafleur vient d'être élucidée. C'est le résultat d'une enquête minutieuse menée par le service territorial de police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale, Léo Fichou.
Oui, la découverte d'une empreinte digitale sur l'un des supports du caveau familial a permis d'identifier un premier individu, un sans domicile fixe, mais il a finalement été mis hors de cause dans les refaits qui lui sont reprochés. Un second individu a lui été identifié à partir des recoupements effectués en lien avec une intervention de police secours. Les investigations ont en effet permis de dire que le t-shirt découvert sur les lieux appartient à un homme âgé de 28 ans, domicilié à Rivière-Salée, mais en errance habituelle. Lors de son audition réalisée au CHS de Nouville, où il est admis depuis plusieurs jours, il a reconnu s'être rendu au cimetière du 4e kilomètre la nuit du 10 au 11 août dernier, en franchissant notamment le portail d'entrée. Il indique également qu'après avoir fait ses besoins devant le caveau, il avait accroché son t-shirt portant les mentions « Jesus, the way, the truth » sur l'une des colonnes. L'expertise psychiatrique conclut à la présence de troubles du comportement caractérisant une abolition de son discernement. L'auteur présumé présente en effet une schizophrénie justifiant un traitement médical conséquent qu'il avait d'ailleurs interrompu au cours de la période des faits. Le parquet a décidé de classer sans suite cette procédure pour cause d'irresponsabilité pénale. Dans son communiqué, le procureur de la République, Yves Dupas, précise que, je cite, « les conclusions de cette enquête conduisent de manière claire à écarter l'hypothèse d'une profanation à caractère racial commise en raison de l'appartenance de la personne décédée à une ethnie, une nation, une race ou une religion ». Fin de citation.
Et autre communiqué envoyé ce soir par Yves Dupas à propos cette fois de l'affaire d'atteinte sexuelle sur un élève au lycée agricole de Pointe-Bout.
Le procureur de la République annonce que la procédure diligentée par la brigade de recherche de Connay du chef de viol sur mineur à l'encontre du proviseur a donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte sexuelle sans contrainte ou surprise sur un mineur de plus de 15 ans par un majeur ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Il ressort que l'élève mineur de 17 ans a déclaré avoir eu des rapports sexuels consentis avec le proviseur. Elle a confirmé les confidences faites à plusieurs de ses camarades ainsi qu'auprès de certains personnels du lycée. L'auteur présumé a contesté les faits au cours de ses auditions en garde à vue. Le proviseur du lycée a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, décision conforme aux réquisitions du parquet. Parmi les obligations ou interdictions imposées par ce contrôle judiciaire, il est notamment fixé une interdiction d'entrer en relation avec la victime, interdiction également d'exercer son activité professionnelle, interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi qu'une interdiction de se rendre au lycée Michel Rocard de Pointe-Bout et au domicile de la victime. Ce délit fait encourir la peine de 5 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 45 000 euros.
Débrayage ce matin au collège de Boulary. Le personnel de l'établissement a cessé toute activité pendant 45 minutes pour protester contre la montée de l'incivilité chez les élèves. Bertrand Brial, enseignant au collège de Boulary et délégué syndical à l'UTCFE-CGC, dénonce des problèmes d'insécurité dans le collège et ses abords qui durent depuis plusieurs mois déjà.
Le point de départ de ce débrayage, c'est suite à une agression d'une collègue au sein de l'établissement, agression verbale très violente, mais également des menaces physiques. Mais en fait, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que ça fait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, que au sein du collège, on subit de la part des élèves des jets de pierre, par exemple, dans la cour. On a certains collègues qui ont peur de traverser la cour. Dans le parking qui est à l'extérieur du collège, il y a également deux collègues qui se sont fait crever des pneus. Enfin bref, il y a vraiment une montée en puissance d'incivilité et de comportement inacceptable de la part des élèves, notamment depuis l'année dernière à cause des émeutes. Et en fait, cette année, ça continue. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette heure de débrayage pour tirer la sonnette d'alarme et dire que ça suffit, quoi.
L'enseignant se dit satisfait et soutenu par la direction de l'établissement. Plus de 60% du personnel s'est associé au débrayage. Les représentants syndicaux ont d'ailleurs été reçus par le vice-rectorat mardi dernier. Plusieurs solutions ont été envisagées. La création d'un groupe de prévention et d'observation réunissant gendarmerie, police et mairie. Un inspecteur de vie scolaire sera également envoyé au collège dès la semaine prochaine. Des modules de prévention seront aussi ajoutés au programme des élèves d'ici la fin de l'année scolaire. Notez cette information pratique en raison d'un problème technique. Les rotations du Bétitcho sont suspendues ce week-end. La rotation Nouméa-Lifou-Maré n'a pas pu être effectuée ce jour. Le trajet Nouméa-Île-des-Pins de demain est également annulé. Les passagers impactés seront transférés sur la rotation de ce dimanche. Quant à ceux qui souhaitaient se rendre à l'Île-des-Pins, ils seront directement dirigés vers la compagnie aérienne Air Calédonie. Le Bétitcho reprendra ses rotations normalement à compter de lundi prochain. Et également, la vente de billets est temporairement interrompue jusqu'à dimanche inclus pour les tickets en agence et jusqu'à lundi pour les tickets en ligne. Il est 18h, passé de 2 minutes. Première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, samedi 30 août, café rencontre de 9h30 à 12h. Expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Chez Sima Quincaillerie, c'est le mois des pros. La ponceuse vibrante Makita 180 watts est vendue 8 900 francs. Offre valable du 1er au 31 août dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur Facebook et sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Info soir, Léana Colombo.
Le congrès PASAI a refermé ses portes ce vendredi. L'Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du Pacifique réunissait pendant 4 jours au Méridien des auditeurs généraux notamment. Le thème « L'impact des audits pour améliorer la responsabilité et la transformation dans les gestions publiques », Léo Fichou.
Oui, depuis ce mardi et jusqu'à ce midi, donc plus de 60 personnes originaires des pays du Pacifique, mais pas que. Il y avait des Autrichiens, des Norvégiens, des Africains et des Africains du Sud, et des Américains ont assisté au 26e congrès PASAI organisé par la Chambre territoriale des comptes. Les participants, des auditeurs généraux, vous le disiez, des auditeurs publics ou d'autres personnes qui occupent des rôles et des postes similaires en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique ont échangé sur différents sous-thèmes. Florence Bonafou, présidente de la CTC, mais aussi présidente cette année de PASAI.
D'une part, plaider pour l'indépendance des institutions supérieures de contrôle. Il faut s'assurer que les institutions supérieures de contrôle et les auditeurs généraux qui les pilotent aient toutes les capacités de faire leur travail en toute indépendance. Le deuxième axe de travail de PASAI, c'est de renforcer les compétences à la fois humaines et techniques et les compétences aussi professionnelles dans le domaine de l'audit des institutions supérieures de contrôle qui ne sont pas toujours appuyées par des ressources importantes dans leurs états locaux. Et le troisième axe de travail, c'est de développer aussi toutes les compétences en matière de gestion interne, en matière de gestion humaine, de réseau informatique, en matière aussi, par exemple, de déontologie, d'éthique. Toutes ces questions de gestion de l'équipe de l'institution supérieure de contrôle doivent aussi être abordées pour être améliorées.
Des échanges jugés très riches par les participants, notamment sur la question de comment améliorer l'impact des audits afin qu'ils aient une utilité réelle à la fois pour les décideurs publics et aussi pour les citoyens. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, a évoqué l'attente de plus en plus élevée des citoyens, justement en matière de responsabilité et de transparence publique, mais aussi l'importance de la coopération régionale.
Il était important d'accroître la confiance du public dans les institutions publiques et gouvernementales. Vraisemblablement, c'est un des axes stratégiques importants pour PASAI. Et pour nous, en tant que diplomates en charge de la coopération régionale, c'est très 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 important de participer à la réunion organisée par la Chambre territoriale des comptes. C'est très très utile et important pour le rayonnement régional de la Nouvelle-Calédonie. C'est du renforcement mutuel, donc les méthodologies des autres, on les incorpore dans nos savoirs, mais c'est très important aussi de faire rayonner, parce que la Nouvelle-Calédonie a une qualité de service public, notamment dans ces domaines-là, qui est très très utile pour le reste des États insulaires du Pacifique.
Le prochain congrès du PASAI, ce sera donc le 27e. Il aura lieu en août 2026 à Nauru.
Et Léo, dans la foulée de ce 26e congrès PASAI auquel elle participait, Véronique Roger-Lacan a rassemblé la presse pour faire un point sur le prochain forum des îles du Pacifique.
Oui, ce sera le 54e sommet du FIP. Il aura lieu du 8 au 12 septembre à Honiara, aux îles Salomon. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française y participeront, mais pas les représentants de l'État, comme Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France pour le Pacifique, explique que malgré cette absence, la France reste bien informée sur les discussions pendant ce forum des îles du Pacifique.
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française sont membres à part entière du forum des îles du Pacifique. L'État est un partenaire de dialogue. Cette année, cette réunion avec les partenaires de dialogue a été reportée à l'année prochaine. Une des décisions qui devait être adoptée cette année sur la révision de l'architecture régionale n'a pas été finalisée. Donc, ils ne savaient pas à quelle sauce accommoder les partenaires. Nous, nous sommes au courant, puisque nous sommes en contact au titre de la loi organique avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie pour préparer leur participation à ce sommet. On est tenu au courant par le secrétariat du FIP, par les territoires français du Pacifique et par nos partenaires à l'intérieur du Pacifique. On a des relations étroites avec les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu. Nos relations font de sorte que nous sommes au courant, tenus au courant, et que notre avis est aussi pris en compte.
Véronique Roger-Lacan a également détaillé les différentes contributions actuelles et futures de la France dans le Pacifique, notamment un programme de soutien à l'audiovisuel océanien, un programme d'exportation de scories de nickel pour lutter contre la montée des eaux dans plusieurs petites îles de la région.
42 délibérations étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée de la province Nord qui s'est réunie ce matin à l'hôtel de province à Koné. En plus de ces délibérations, les élus ont examiné la décision modificative pouvant permettre à la province d'acquérir un terrain foncier à Pointe-Bout. Victor Tutugoro, le troisième vice-président de la province Nord, nous en dit plus.
Le gros morceau était la décision modificative pour permettre l'achat par la province d'un foncier sur la vallée de Pointe-Bout devant servir au futur barrage envisagé dans la région.
C'est quoi ça?
Si vous voulez, ça a permis donc ça va permettre de racheter, hein, la décision qui a été prise ce matin. Ça va permettre de racheter la propriété de mon voisin, hein, là-haut dans la vallée, là où justement il y a le projet de barrage hydraulique, hein, devant servir à l'essor de port agricole à la région et pour partie également pour l'eau potable suite aux dernières périodes de sécheresse. Le premier pas a été donc de pouvoir permettre à la province donc de racheter ce foncier à hauteur de 235 millions.
Les élus se sont aussi penchés sur l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. La province entend en effet créer un service dédié à cette question pour mieux accompagner les victimes de ces violences dans leur parcours, depuis la phase d'écoute et d'accueil jusqu'à un accompagnement psychosocial vers l'insertion, voire la réinsertion sociale. Le 25e congrès du pays kanak s'est ouvert ce matin au Sénat Koutoumi à Nouville. Il s'agit de la fin de la mandature 2020-2025 pour les sénateurs. Et le président sortant, Éloi Goé, a pris la parole avec un discours très offensif sur l'identité et la lutte du peuple kanak. Pour autant, Éloi Goé l'assure, il est venu le temps de l'apaisement et de la construction. Et le Sénat Koutoumi va donner son avis sur le projet de Bougival à l'issue de ce congrès.
Un appel à l'apaisement. Un appel à l'unité. Depuis très longtemps, le peuple kanak a opté pour une démarche non violente, quoi. Même si on a connu des conditions difficiles. Mais le temps de la violence est passé, le temps de la reconstruction, dans l'apaisement est à retenir, quoi. C'est un peu le discours, enfin la méditation qu'a porté tout à l'heure le sénateur pasteur de l'institution. Nous avons eu l'occasion de le dire. L'accord Bougival, de notre lecture, de notre perception, risque d'être un frein aux trajectoires fixées par l'accord de Nouméa et les accords précédents. Mais on est ouvert à continuer à chercher une voie commune qui puisse satisfaire les uns et les autres.
Le haut-commissaire Jacques Billon a également pris la parole. Il a rappelé que Manuel Valls, ministre des Outre-mer, avait commencé son séjour en Calédonie par une rencontre avec le Sénat coutumier et qu'il avait accédé à sa demande de participer au comité de rédaction.
Le ministre vous a réaffirmé que la porte de l'État vous restait éternellement ouverte. Je crois réellement, pour ma part, que cet accord est une opportunité à saisir pour tous les Calédoniens afin de permettre au pays de relever à nouveau la tête et de continuer à bâtir la grande case du destin commun. Et je vous assure que l'engagement de l'État à reconnaître et à garantir l'identité kanak restera plein et entier. Je crois sincèrement que l'accord de Bougival permettra de poursuivre ce partenariat unique entre les droits et les devoirs citoyens, d'une part, et la coutume et l'invisible, d'autre part. Monsieur le Président, Messieurs les Sénateurs, le temps des oppositions frontales est terminé. Il faut en revenir au tissage patient de la natte qui réunit et sur laquelle se nouent les échanges, les alliances et les promesses.
Le 25e congrès du pays kanak va durer jusqu'à demain à Nouville. Il va notamment être question de l'accord de Bougival, de la place du Sénat coutumier dans l'organisation institutionnelle et notamment du bicamérisme. Enfin, s'agissant de la fin de la mandature 2020-2025, les sénateurs coutumiers vont être renouvelés à l'exception des représentants. C'est d'ailleurs Ludovic Boula qui devrait être élu président. Le colloque intitulé « Concurrence et intégration économique régionale » s'est refermé ce midi à la CCI, à l'invitation de l'UNC et de l'Autorité de la concurrence. Pendant 3 jours, une trentaine de spécialistes du monde entier sont venus apporter leur vision du développement économique des petits territoires insulaires. La dernière matinée d'échange a eu lieu à la CCI en présence de chefs d'entreprise et a été conclue par Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de ces secteurs.
J'ai utilisé volontairement le terme de diplomatie économique parce qu'on a besoin de travailler à la fois les entreprises et les collectivités et se déplacer pour aller chercher des marchés pour nos entreprises avec les collectivités. Donc c'est un vrai relais de croissance dans la situation actuelle. En tout cas, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est tourné vers ça pour aller donner du travail à nos entreprises. On est aujourd'hui dans une phase d'évolution de la Nouvelle-Calédonie à la fois économique et institutionnelle et l'intégration régionale et le commerce extérieur en font grandement partie. On a besoin d'avoir ces avis d'experts, ces différentes évolutions qui nous permettent de tracer notre feuille de route. Donc avec des actions concrètes, on l'a vu tout le temps de ce colloque, il y avait vraiment des propositions en termes d'intégration régionale, mais également d'amélioration du fret et des aides aux entreprises. Donc c'est des choses qu'on prendra en compte.
Des chefs d'entreprise et une délégation du gouvernement partira la semaine prochaine à Fidji pour davantage intégrer la Nouvelle-Calédonie à l'économie régionale et mettant en place des accords commerciaux. L'OPT et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont travaillé de concert ces derniers mois afin de mieux coller à la réalité de consommation Internet des Calédoniens, Charlotte Coulson.
Dans un contexte économique très contraint à la suite des émeutes insurrectionnelles de mai 2024, Christopher Gigès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment de l'économie et du numérique, avait lancé un travail avec l'Office des Postes afin de mieux coller à la réalité de consommation Internet des Calédoniens. Aujourd'hui, la téléphonie dite classique est devenue, en termes de consommation, marginale face à la montée en puissance depuis plusieurs années déjà de la VoIP, des messageries instantanées et du téléphone portable. L'OPT s'adapte donc et a modifié son modèle d'abonnement avec un double objectif à partir du 1er décembre prochain, faire baisser la facture des Calédoniens et en parallèle augmenter le débit de l'Internet. Thomas de Decker est le directeur général de l'OPT.
Pour le client, les économies vont aller de 350 à 1900 francs. Il y a 6 forfaits différents. En fonction du forfait, l'économie va être plus ou moins importante. Et par contre, effectivement, le gain va, on multiplie par 10, puisqu'on passe sur l'offre 1 giga, ça sera l'offre de base. Et on espère justement l'année prochaine sortir des offres à 10 gigas en fonction des besoins des Calédoniens, puisqu'on voit que l'usage d'Internet explose et que les besoins sont de plus en plus croissants.
La nouvelle offre proposée par l'OPT est la première étape d'un travail qui va se poursuivre dans les mois qui viennent. Et au total, avec cette nouvelle offre, ce sont 440 millions de francs par an qui seront donnés en pouvoir d'achat pour au moins 49 000 ménages calédoniens.
Et voyons maintenant les festivités de ce week-end, Charlotte Coulson, avec notamment la nouvelle exposition de l'artiste peintre Caroline de Groisel qui débutera demain à la galerie Arte Bello.
Elle est intitulée « Variations en fantaisie couleur ». Les visiteurs sont invités demain matin de 9h30 à midi à un café rencontre avec l'artiste peintre. Un moment convivial pour échanger autour des toiles, partager un café et se plonger dans l'univers haute en couleurs. On écoute les précisions de Caroline de Groisel.
Ce sont des tableaux qui ont un certain temps, puisque même un an, on les met dans un coin, ils ne sont pas toujours exposés, et je les redécouvre. Et je les redécouvre dans une exposition, on n'a pas le même regard que dans l'atelier. Hein. Et puis c'est vrai que le premier regard des gens qui est oh, étonné, ou alors ils passent à travers sans rien voir, ça arrive aussi, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça, ou pas sensibles à ce que je fais moi, parce que c'est peut-être ils sont attirés par autre chose, et tant mieux. Donc je ne le cherche pas, mais j'aime bien être spectatrice de ça. Oui, c'est amusant.
Et l'exposition Variations en fantaisie couleur ouvrira ses portes demain et sera visible jusqu'au jeudi 11 septembre à la galerie Arte Bello au Quartier Latin.
Et la culture urbaine sera à l'honneur demain dans la ville de Dombières.
Les amateurs seront attendus à partir de 11h au Big Up Spot du parc de Coutiot pour la 10e édition du Big Up Day, une journée dédiée à la jeunesse qui valorise les cultures urbaines, breakdance, ride, rap et graph, sans oublier les 10 ans du Conseil des jeunes de Dombières jusqu'à 19h.
À Païta, l'association Témoignage d'un passé proposera demain une nouvelle visite guidée pour découvrir Saint-Léon.
Une immersion unique dans l'histoire du foyer de Saint-Léon, un lieu emblématique de Païta aux multiples vies. Une visite exceptionnelle pour mieux comprendre l'évolution de ce site au fil du temps et son rôle dans l'histoire calédonienne. La visite guidée se déroulera demain de 9h à 11h.
À Nouville, le Théâtre de Lille accueillera ce week-end le spectacle Molière.
Une production de la compagnie Grand Tigre en coproduction avec le Théâtre Maurice Centre de la Chartre. D'après la vie et l'œuvre de Molière, deux représentations seront données demain et dimanche à 18h sur les planches du Théâtre de Lille à Nouville. Les réservations sont à faire sur ticket.nc.
Animation dimanche matin au CCT avec comme chaque dernier dimanche du mois le marché des femmes rurales. L'entrée est libre et gratuite. La ville du Mont-d'Or proposera ce dimanche 31 août le grand marché Broussard à Boulary. Ce sera de 6h à midi. Et enfin à Lifou, c'est la fête du santal et du miel jusqu'à ce dimanche. Ce week-end, c'est également la course aux bonnes affaires, car demain, c'est le début des soldes de saison fraîche. Elles vont durer 4 semaines, soit jusqu'au 28 septembre. Dans une période de baisse de la consommation et de baisse du pouvoir d'achat, c'est un moment important pour les commerçants, mais aussi pour leurs clients. Ronan Délé est le président du syndicat des commerçants.
C'est toujours un moment important pour les commerçants qui permet de générer de la trésorerie, d'écouler des stocks anciens. Mais c'est également un moment important pour les consommateurs, les Calédoniens, parce qu'on remarque réellement que les gens font beaucoup plus attention à leurs dépenses. Dès qu'ils ont la possibilité de faire des bonnes affaires, ils le font. Et d'ailleurs, on remarque que les commerçants ont tendance à commander des produits avec une valeur intrinsèquement moins élevée. Et pourquoi ? Parce que les clients ont baissé leur panier moyen d'achat. Et ça se remarque sur tous les secteurs, que ce soit de l'alimentaire, du vin, mais même des produits de consommation courante.
Ronan Délé, président du syndicat des commerçants, lors de l'émission Les Jeudis de l'économie consacrée hier au secteur du commerce. Une émission à retrouver en intégralité sur le site internet rrb.nc. Rappelons donc que les soldes débutent demain et se poursuivent jusqu'au 28 septembre. 18h19, seconde pause avant de voir tout le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Hey Cousse, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code en magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant, il y a des lots fins valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette.
Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et voyons à présent quels seront les principaux rendez-vous sport du week-end en métropole et dans le monde. Et Léo Fichon, on commence avec du football et la troisième journée du championnat de France de Ligue 1.
Les rencontres se joueront demain dimanche et lundi matin pour nous. Demain matin, en ouverture de cette journée, Lens recevra Brest. On notera que pour clôturer cette journée, un choc, l'Olympico entre Lyon et Marseille. Au chapitre sport coup encore du basket ce week-end avec la suite des championnats d'Europe, monsieur. L'équipe de France qui a battu la Belgique affrontera la Slovénie dimanche matin, puis enchaînera avec une rencontre face à l'Israël lundi matin. Et puis du rugby au féminin avec la suite de la Coupe du Monde. L'équipe de France jouera son deuxième match dans la poule D. Les Françaises affronteront le Brésil. Match à suivre dans la nuit de dimanche à lundi pour nous.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Au chapitre sport mécanique, c'est un week-end de reprise pour la Formule 1.
Après 3 semaines de pause, à suivre la 15e manche du championnat du monde pour le Grand Prix des Pays-Bas. Les 2 premières séances d'essais libres se dérouleront ce soir et la nuit prochaine. La séance de qualification se disputera demain à partir de minuit. Le Grand Prix sera lui à suivre dimanche soir à partir de minuit également.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On termine avec le sport ce week-end sur le territoire. Plusieurs rendez-vous à noter dans vos agendas. D'abord du cyclisme dès ce soir à Nouméa.
Oui, le vélodrome de Magenta accueille jusqu'à dimanche les championnats de Nouvelle-Calédonie de cyclisme sur piste. Un programme chargé pour toutes les catégories, les U15, U17, U19, Access, Open et Elite. On reste à Magenta pour parler de football cette fois avec les demi-finales de la Coupe de Calédonie. Ce sera demain au stade de Madélé. En ouverture à 13h, Horizon Passo sera opposé à l'AS Magenta. Puis à 16h, le CA Saint-Louis défiera Tigasport. L'entrée est à 300 francs. Demi-finale aussi de cricket. Ce sera demain matin dès 8h au stade de Ndu. Demi-finale hommes et dames avant les grandes finales qui sont prévues dimanche matin à la même heure. Enfin, dimanche, 2 rendez-vous. Le premier, c'est bien évidemment le marathon international de Nouméa dont le départ sera donné à 7h à l'hippodrome Henri Millard. Puis le second rendez-vous de dimanche, ce sera à Dumbéa, la 3e manche du championnat de Nouvelle-Calédonie de karting sur le circuit de Nakutakouin.
Et on termine cet agenda des sports du week-end avec un mot de football dans la région. Objectif champion d'Océanie pour les moins de 16 ans calédoniens qui affrontent la Nouvelle-Zélande en finale du tournoi OFC. Ce sera demain à 17h. Lors des phases de poule, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge 0-0. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, en première partie de nuit, les nuages domineront sur l'ensemble du pays. Par la suite, des éclaircies se développeront sur l'ouest et la pointe sud. De rares averses resteront possibles sur la façade est. Le vent restera parfois faible, n'excédant pas 5 nœuds. Les températures minimales varieront de 14 à 19 degrés, avec des valeurs plus fraîches aux Loyautés, où elles descendront jusqu'à 11 degrés. Demain matin, sur l'ouest et la pointe nord, le ciel sera bien dégagé. Sur la façade est et les Loyautés, les nuages présents au lever du jour se morceront en fil au fil de la matinée. Ils persisteront davantage sur le sud-est où de rares ondées pourront se produire. Le vent restera faible et variable, soufflant autour de 5 nœuds.
Et merci beaucoup Pierre, c'est la fin de cette longue édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres. Et en attendant, retrouvez tout de suite le journal d'Europe 1 suivi de l'interview d'Europe 1. Romain Desarbres reçoit Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville.